Oui, cette voiture rouge a marqué mon cerveau. C'est vraiment, j'ai... Oui, j'ai un choc. Quand je repense à cette voiture rouge, c'est... Maintenant, je l'ai assimilée, c'est clair. Dès que je vois une voiture rouge sur la route, ben, je mets mon signe au fil à droite et puis je la laisse passer. D'ailleurs, j'aime pas, j'aurai jamais de voiture rouge.
Mais vous conduisez.
Je conduis très prudemment, oui, pour aller en thérapie et c'est heureusement pour moi encore une, si je peux me permettre, la dernière liberté qui me reste.
Et pourtant, parce que la conduite, c'est quelque chose de très fatigant, hein. J'imagine que lorsque vous arrivez à destination, vous le ressentez. Je pense que la conduite est... On ne se rend pas compte, hein, quand on n'a pas eu ça, mais je pense que la conduite est peut-être l'un des éléments les plus fatigants, alors que ça paraissait tout à fait normal.
Oui, tout à fait. Après l'accident, j'ai repris en thérapeutique mon travail de douane. Et ce qui était vraiment fort, c'est que j'ai rien voulu lâcher. J'ai voulu repartir en thérapeutique parce que je me disais, non, mais t'as eu un accident, c'est bon, tu vas reprendre ta vie. Tu vas pouvoir arriver à refonctionner comme avant. Avec le cerveau différent, mais tu vas reprendre ta place, ça va aller, et tu gagneras. Et j'ai remarqué, après le déni et tout ce travail qui a été fait, il a fallu faire un énorme travail sur soi-même. Parce qu'on doit revenir aux sources, à l'essence même de qui on est, où on va, redéfinir nos buts de vie, redéfinir aussi les amis. Les amis, bêtement dit, quand tu travailles, tu es actif, tu as des connaissances, mais le jour où tu es hors du système, les amis... Ils en ont marre de voir des gens qui vont pas bien. Ils ont besoin de voir des gens qui vont bien. Mais quand vous avez des gens qui sont dans le besoin chez nous, autour de chez nous, ils savent même pas que Fragile existe. Mais ils savent qu'à l'autre bout de la terre, il y a une bombe qui a pété.
Fragile, c'est l'association, hein? Cette fragilité du cerveau, parce que vous le disiez tout à l'heure, vous avez perdu tout de même une partie de vous-même.
Oui, une partie de moi-même dans le sens où je ne peux plus aller courir. Aller en forêt, courir, il m'a donné à ma course à pied que j'avais vraiment besoin, dans le cadre de mon travail, bah, qui était aussi, qui demandait beaucoup. Je pouvais, changer d'air et puis faire mon débriefing en forêt, en nature, en connexion avec la nature. Et pouvoir, prendre soin de mon corps aussi. Actuellement, on fait plus des petites marches. Ça devient des petites balades. Mais c'est très court, c'est très bref, il faut que je fasse des pauses. Et je prends ça positivement maintenant. Au début, j'avais beaucoup plus de difficultés à accepter.
Quand on est en unité neurologique, il y a souvent un professeur qui vient une fois ou l'autre pour dire, ben voilà, on doit reconnecter les neurones, on doit reconnecter votre cerveau, et ça demande un travail. Alors, il y a la puissance de la médecine, il y a parfois aussi l'impuissance de la médecine, mais c'est là aussi qu'on a parfois la conscience de la puissance de notre cerveau, parce que chaque jour, on arrive quand même à reconnecter des choses. Vous avez eu parfois tout de même aussi ces joies-là, François.
Oui, alors ça, c'est totalement vrai de voir que en travaillant d'arrache-pied avec l'ergo, avec tous les intervenants, je veux pas mettre l'ergo en premier, mais l'ergothérapeute, elle donne énormément et tous les thérapeutes aussi, tous ceux qui étaient dans l'ombre au début, à Bâle, à la Réa, ou plein de gens, je peux pas mettre quelqu'un en exergue en plus. Ils font tous partie du puzzle de ma vie, de ma reconstruction. Oui, c'est un grand puzzle, ce chemin.
Se dire que sa vie, c'est de la rééducation, de la réhabilitation, est-ce que c'est difficile parfois? Est-ce que c'est aussi parfois décourageant parce qu'on avait imaginé la vie autrement?
Oui, c'est clair, on a tous envie de trouver la princesse charmante, d'avoir une vie de rêve avec une maison, un chien. Là, j'ai dû changer mes plans de vie, mais j'ai des rêves que j'ai encore envie de pouvoir accomplir. Oui, j'ai des rêves encore.
Mais la princesse charmante, vous avez complètement mis une croix dessus ou est-ce que c'est encore envisageable? Parce que il y a des couples, évidemment, qui se forment avec des gens qui ont eu des accidents, qui ont eu des paraplégies, qui ont eu. Donc, j'allais pas dire que rien n'est jamais perdu, mais il y a tout de même toujours un espoir.
Oui, je pense qu'un espoir est toujours là. Parce que j'ai pu évoluer, j'ai pu grandir. Et au fin fond de moi-même, je suis toujours une personne hypersensible. Je l'étais déjà avant.
Plus depuis l'accident.
Oui, un peu soupe-poulet, je dirais. Un peu soupe-poulet, ouais, c'est ça. J'évite des sautes d'humeur, je comprends pas toujours mes réactions. En fait, c'est mes propres frustrations que je vais faire passer sur les autres. Parce que je suis très très exigeant avec moi-même. Je suis très dur au mal et je me force à pas lâcher. Parce que comme l'humour et la musique pour moi sont des événements énormes. Donc moi-même, je ris de moi, c'est vrai, bah oui, je suis comme un Kinder. Comme ma fille, elle me dit, t'es un Kinder, t'es blond à l'intérieur et puis brun à l'extérieur. Et puis, ces temps, elle a corrigé, elle a dit, mais tu viens gris aussi. Donc, je suis blond-gris. Donc, voilà, je trouve que l'humour est un moteur. Il faut cet humour d'autodérision, ça nous renforce. Ça nous renforce. Et surtout, pour moi, ça me protège du regard des autres. J'ai des fois la honte quand je marche dans la rue avec mes bâtons de marche et que t'as les Jurassiens moyens qui te disent oui, tu fais du ski de fond, ben tu te prépares pour faire la descente. J'ai dit, oui, au départ c'était blessant et maintenant je l'ai tourné à l'autodérision. Je me protège pour pas souffrir.